Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le philosophe Jacques Bouvresse revient sur l'actualité de l'écrivain et satiriste autrichien Karl Kraus, auquel il consacre un nouveau livre, Les premiers jours de l'inhumanité, publié chez Hors d'atteinte. L'importance accordée au langage, la vigilance vis-à-vis des médias ou le rôle prophétique de la satire sont au cœur d'une réflexion qui décortique les mécanismes de propagande et interroge ce retour des années 30 qui fait l'objet de plusieurs livres ces temps-ci ou comment meurent les démocraties. Mais avant cela, rencontre avec une grande dame de la bande dessinée qui partage d'ailleurs avec Karl Kraus ce goût de la satire et la conviction que la littérature peut-être nous sauver. Anatomiste implacable de la société britannique, des relations humaines et des vanités de notre époque, elle revient avec un nouveau personnage féminin, vieille dame indigne, misanthrope et néanmoins esthète au nom évocateur de Cassandra Drake. Posy Simmons est à la grande table jusqu'à 12h30.
La grande table. Raphaël Bourgois.
Bonjour Posy Simmons.
Bonjour.
Vous êtes donc auteur de bande dessinée, je le disais, illustratrice pour enfants aussi et dessinatrice de presse, puisque vous êtes l'une des grandes signatures du Guardian, ce journal quotidien de centre-gauche britannique dans lequel vous croquez avec férocité les lecteurs finalement du Guardian, que ce qu'est cette bonne société intellectuelle, de gauche, cultivée, bien pensante, dirait-on ici en France. Des dessins réunis d'ailleurs dans un album publié en France par Graphique de Noël, votre éditeur, sous le titre Literary Life, scène de la vie littéraire, c'était en 2014. Mais c'est surtout pour vos romans graphiques que vous êtes connus chez nous en France, Gemma Bovary, Tamara Drew, Gemma Bovary, à chaque fois je dis Bovary, évidemment par analogie, Gemma Bovary, Tamara Drew, qui ont tous deux été adaptés au cinéma, mais aussi, et vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que c'est la plus grande des consécrations sur France Culture. Vous avez, on y reviendra, posé les bases de ce genre très particulier qu'est le roman graphique. C'est donc tout naturellement qu'on vous a proposé en 2018 de présider le jury du Festival d'Angoulême et qu'on vous expose en ce moment dans le cadre de l'excellent Festival Pulp dont vous signez d'ailleurs l'affiche. Le commissaire est Paul Gravette qui sort ces jours-ci pour être parfaitement complet une monographie de vos œuvres intitulée So British. Enfin, dernière actualité, vous publiez donc cet album, hein, Cassandra Dark, un nom qui sonne comme un pléonasme. Cassandra, évidemment, celle qui annonce les malheurs. Dark, ce qui renvoie à la couleur noire en anglais. Une invitation au pessimisme peut-être, Posy Simmons, un nouveau personnage de femme, moins jeune, moins jolie, moins sociable. Qui est-elle, cette Cassandra Dark?
Elle est misanthrope. Elle est, ça me plaisait de faire une héroïne différente que ce qui est attendu chez les femmes. Donc, elle s'en fiche de sa silhouette. Elle ne cherche pas d'être aimable, pas du tout. Elle est méchante. Elle est très très riche aussi.
Contrairement à Tamara Drew, elle ne se ferait pas refaire le nez.
Ah oui, ah oui. Le nez, elle a un gros nez, oui. Et elle porte une
chapka, oui.
Une chapka.
Un couvre-chef qui lui recouvre les oreilles en fourrure.
Oui, c'est comme ça, ça isole du monde. Elle ne peut pas entendre des choses. Et avec son gros manteau et ses bottes, c'est comme un amour, homme.
Un homme.
Elle est.
Une armure.
Ah, une armure.
Voilà,
oui, c'est ça. C'est ça. Parce que elle s'intéresse pas aux gens.
Elle ne s'intéresse pas aux gens, elle est donc misanthrope. Et c'est, dites-vous, on connaît votre amour pour la littérature, les personnages littéraires. Là, c'est pas vraiment une adaptation, en tout cas, une libre interprétation, comme ça pouvait l'être, comme Gemma Bovary pouvait l'être d'Emma Bovary, évidemment, de Madame Bovary, le célèbre roman de Flaubert. Mais là, vous dites, c'est un Scrooge au féminin. Scrooge, c'est un personnage avare, acariâtre, qui est peut-être moins connu en France qu'il ne l'est en Angleterre, bien que personnage d'un chant de Noël de Charles Dickens. C'est ça, un Scrooge au féminin. Les femmes avaient le droit à leur propre Scrooge?
Oui, absolument, absolument. Scrooge, dans le roman de Dickens, il est mince, il garde son argent, il est avare, il est égoïste. Par contre, Cassandra Dark, elle mène une vie absolument luxueuse. Elle habite dans une maison qui est très, très confortable. Elle a un jardinier, une gouvernante cuisinière, une femme de ménage, un chauffeur. Et c'était possible pour elle de vivre sans travailler, sans savoir les soucis des autres.
Tout ça, c'était évidemment avant de se faire attraper, puisque elle est galeriste, elle a repris la galerie de son ex-mari et elle en profite pour truander un petit peu, vendre des copies, des reproductions plutôt. Alors, elle regarde les moulages d'un artiste célèbre, d'un sculpteur célèbre, et qu'elle revend contre toutes les lois, évidemment, du marché de l'art. On va revenir évidemment sur cette critique que vous faites du marché de l'art pour laisser peut-être un peu tranquille le monde littéraire. Vous nous le direz tout à l'heure, Posy Simmons, mais j'aimerais qu'on parle d'un autre personnage féminin, qui est celui de Nikki, la nièce de Cassandra Dark, qui est la fille de sa sœur et de son ex-mari, jeune fille un peu paumée, artiste, performeuse, qui fait des performances dans les musées, où elle se photographie devant des tableaux où sont représentés des viols de femmes, et voilà, où elle dit, voilà, ce sont des viols, encore cette image de la femme comme objet soumise, et on voit s'affronter finalement deux conceptions du féminisme, puisque Cassandra Dark la renvoie un petit peu dans ses cordes en lui disant que quant à sa bien-pensance, on pouvait vomir à la voir afficher sa vertu dans son art. Vous êtes plutôt du côté de Nikki ou de Cassandra Dark, vous comprenez ce féminisme qui est important pour vous, mais ce nouveau féminisme en quelque sorte?
Oui, c'est important pour moi. Je crois que je comprends les deux côtés. Je comprends que Cassandra pense que Nikki, c'est un peu de, elle est poseur un peu, et elle fait des trucs pour sont postés sur Instagram ou ça lui donne une auréole.
De l'urticaire, pas ça. Ouais. Et puis pour oui, c'est ça, ça lui permet de se racheter un petit peu une conscience, comme on dit.
Oui, c'est ça. Mais de l'autre côté, je crois que Cassandra, elle est un peu vieux jeu et donc elle est méchante.
Elle est méchante, ça c'est certain. Elle n'est pas tendre ni avec Nikki, sa nièce, ni avec l'humanité en général. On retrouve dans cet album Cassandra Dark, Posy Simmons, qui est donc publié chez votre éditeur, hein, de Noël Graphique, chez qui vous avez publié tous vos livres en français en tout cas. On retrouve cette façon, cet humour grassant et aussi cette façon de décrire la société anglaise aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est une société de gens riches, un peu comme à l'image du photographe Martin Parr, le photographe anglais qui a si bien photographié cette société. Je propose de l'écouter. C'était au micro de Laura Adler en 2015 sur France Culture.
Au-delà de ce que vous pensez peut-être, en fait, j'aime vraiment les gens. Et j'ai de l'empathie pour ceux qui sont amenés à vivre. Et ça, c'est vraiment fondamental dans ce que je fais. Il y a un vrai respect, il y a de l'affection pour les gens. Parfois, je critique, bien sûr, la société, cette société dans laquelle nous sommes tous en train de vivre. Et la seule façon de faire cette critique, c'est d'utiliser les gens qui sont autour de moi. Donc, il y a un peu une certaine contradiction là-dedans, mais c'est inévitable. Comment faire autrement ? On est obligé d'utiliser les gens autour de nous. Donc, vous savez, parfois, c'est un peu comme pour une série TV, je vais choisir un cadre, je vais mettre les gens dans ce cadre, et après, il y a des gens qui vont, si vous voulez, confirmer un stéréotype qui permet de les rattacher à telle ou telle tribu. On va avoir une dame française d'un certain âge qui vient d'un milieu aisé, et elle correspond à cette image. Moi, j'aime bien quand on a ces clichés qui sont mis les uns à côté des autres. Donc, je vais prendre les clichés et je vais les exacerber, en fait, autant que possible.
Et donc, après la tribu des écrivains qui retrouve la campagne dans Tamaradou, on a cette tribu des riches londoniens qui aiment l'art, qui vont à l'opéra et qui vivent dans des quartiers où ils côtoient deux types d'étrangers, des riches russes ou saoudiens, ou évidemment tout le personnel des bonnes, des nounous, issus de pays plus d'Asie du Sud-Est, comme les Philippines ou d'ailleurs. Et c'est ça que vous nous montrez, Posy Simmons, dans ce livre. On retrouve votre œil et votre acidité sur cette société londonienne.
Oui, d'habitude, je marche beaucoup à Londres. J'ai marché dans les quartiers riches. Et j'aime voir toutes les boutiques de luxe à Knightsbridge, par exemple. Mais j'aime aussi marcher. Je prends le bus. J'aime voir les autres quartiers qui ne sont pas très riches. Mais dans les dernières années, ça m'a frappé que les riches, les quartiers riches sont devenus plus riches. Et les quartiers pauvres, plus pauvres. Et on voit de plus en plus des mendiants, les sans-abri. Et dans les supermarchés, il y avait des banques alimentaires. Je crois qu'il y a une fracture sociale.
Parce que ce qu'on n'a pas dit sur ce nouvel album, c'est que c'est un album très noir, ça on l'a compris, avec ce personnage de Cassandra Dark, mais c'est aussi, une forme de critique de la lutte des classes telle qu'elle se joue aujourd'hui à travers la forme du polar, ce qui est souvent d'ailleurs le rôle qu'on attribue à ce genre littéraire du polar, c'est-à-dire porter cette forme de lutte des classes. Il y a un personnage, celui de Billy, qui est le petit ami de Nikki, qui est un voyou, qui traîne avec une bande peu recommandable. On va pas révéler évidemment l'essentiel de l'intrigue, mais on peut dire au moins ça, qu'il est question aussi de prostitution, de trafic d'êtres humains, de ces femmes venant des pays de l'Est. Et donc c'est au centre de votre ouvrage. Et vous avez choisi de le traiter à travers ce genre presque du polar. C'est un genre que vous lisez, que vous aimez, Posy Simmons, le polar?
Oui, c'est un genre que j'aimais. Je crois que c'est la première fois que j'ai fait quelque chose un peu policier. C'était parce que les autres albums, ça se passait à la campagne. Mais je crois Londres, c'était quelque chose, représente quelque chose plus proche de moi, par les enlèvements et tout ça, mais c'est quelque chose c'est frappant.
Ce qui vous frappe, donc, c'est cette violence qui existe dans la ville de Londres, une violence peut-être un peu cachée dans ces quartiers de Knightsbridge ou ailleurs, ou de Chelsea, où se trouve la galerie de Cassandra Dark.
Oui, c'est enfin la jeune femme qui est morte sur la son corps est retrouvé sur la première page de l'histoire. Elle est cachée dans l'histoire, mais de temps en temps sa présence est là parce qu'il y a un gant et un petit truc pour son maquillage s'est trouvé et elle est là, elle n'est pas là. Parce qu'elle est en fait dans une maison de prostitution dans les banlieues.
Oui, l'album s'ouvre sur une coupure de presse. On a retrouvé le cadavre d'une jeune femme d'1m50, les cheveux teints en rouge, et se termine, et là par contre je ne dirais évidemment pas la fin, mais en tout cas se termine, on a retrouvé l'identité de cette jeune femme, et on a une véritable narration qui est fondée sur le flashback, on peut dire, Posy Simmons, que vous mettez en place, et on retrouve là une veine très très littéraire qui est la vôtre, c'est-à-dire l'invention aussi, autant que des images, l'invention d'une façon de raconter une histoire.
En texte, oui, il y a beaucoup de textes. Je crois, on m'a souvent remarqué que j'ai beaucoup de textes, ou trop de textes, peut-être pour les puristes de bande dessinée. Les deux albums, Gemma Bovary et Jamal Drew, d'abord étaient publié en feuilletant dans le journal The Guardian. Et donc, c'était les contraintes du journal, le format, que ça soit en noir et blanc, combien d'épisodes, tout ça. C'était les commandes du journal. Donc, c'est pour ça... 100 épisodes, j'avais avec Gemma Bovary, il y a trop d'histoires, il fallait que je bourre mes planches d'intrigue. Donc, c'était plus facile ou plus économique de faire une partie de l'histoire en narration.
Donc, le texte écrit, qui est une forme de narration, et les bulles, les phylactères, qui deviennent en quelque sorte simplement les interactions entre les personnages, les dialogues de votre bande dessinée, Posy Simmonds. Et on retrouve là, je disais, votre goût pour la littérature, pour les mots. Je vous propose d'écouter un autre grand nom de la bande dessinée, qui est Alan Moore, et qui s'exprimait justement sur ce rapport au mot, à la littérature, l'importance du mot dans la bande dessinée, même si on fait pas toujours le lien. C'était sur France Inter en 2017.
Le processus de l'écriture est étrange et ça devient de plus en plus mystérieux pour moi, plus je progresse. William Burroughs met en avant une idée que je trouve très opérationnelle. C'est le mot « plante ». Quand vous écrivez un mot, ce mot suggère le mot « avenir ». Le mot suivant. Donc, il y a une plante, mot, qui croît, qui grandit. Je trouve que ça, c'est très semblable à la façon dont je me sens moi lorsque j'écris. Je suis très conscient aussi de la couleur des mots. Ça aussi, ça suggère quel sera le mot suivant. De cette façon de considérer les choses, un écrivain ou un artiste est un petit peu rétrogradé. Il est moins que le merveilleux démiurge qui crée des mondes à partir du néant. Non, ils deviennent une sorte de véhicule à travers lequel les idées naissent d'elles-mêmes.
Le créateur est un véhicule à travers lequel les idées naissent d'elles-mêmes. Elles partent d'un mot, nous dit Alan Moore, cet autre, évidemment, grand auteur de bande dessinée britannique, Posy Simmonds, qui a été traduit là par Michel Zotowski. On l'aura reconnu. Vous êtes d'accord avec lui? Tout part d'un mot, chez vous aussi, c'est comme ça que vous travaillez?
Les mots? Oui, absolument.
Pas d'une image?
L'image, ça arrive dès que j'ai eu l'idée de l'histoire, ce sont les images. Je commence avec les croquis des personnages. Et après, c'est les mots. Mais quand je faisais mes planches, c'était les mots... D'abord, parce que je voulais savoir combien d'espace qui reste pour les images.
Vous disiez tout à l'heure que vous marchez beaucoup dans Londres. Je crois que vous marchez comme tout dessinateur qui se respecte avec un carnet, évidemment, dans la poche. Est-ce qu'on y trouve plus de mots ou plus de croquis?
Ce sont des croquis, mais quelquefois j'entends des choses sur la bus parce que les gens sont très généreux, ils hurlent dans leur portable. Pour moi, c'est absolument palpitant. On entend des choses très privées, mais quand même intéressantes. C'est comme une pièce.
Une mine d'informations pour vous, Posy Simmonds, que ce téléphone portable, qui d'ailleurs est présent dans cet album de Cassandra Dark. Vous dessinez le téléphone, vous dessinez évidemment les échanges de textos, vous avez même une planche sur une vidéo qu'on trouve sur YouTube. Intégrer toute cette nouvelle technologie, vous avez tout parlé tout à l'heure d'Instagram, intégrer cette nouvelle technologie, c'était comme une évidence pour vous?
Pas du tout. Maintenant, j'ai un ordinateur et maintenant j'ai un téléphone. Mais quand j'ai dessiné les ordinateurs dans l'album Tomorrow Drew, il fallait que je demande à mon mari qu'est-ce qui se passe avec les ordinateurs. Je suis un peu dinosaure.
Un peu un dinosaure, mais pas du tout, Posy Simmonds. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans votre atelier? Donc maintenant, on y trouve un ordinateur, une planche à dessin. J'imagine qu'il paraît qu'il y a un grand miroir.
Oui, il y a un grand miroir devant mon table à travail. Et c'est quelquefois... Si je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les mains ou la figure, le visage, quand on fait une grimace ou quelque chose, c'est moi qui je bouge et je fais des grimaces ou je fais des gestes. Et après, pour mieux dessiner.
On le voit hein, dans cet album So British, donc que j'évoquais en début d'émission, qui est une monographie sur votre travail, l'art de Posy Simmons, c'est le sous-titre de cet album réuni par Paul Gravett chez Donald Graphic. Vous vous mettez souvent en scène. On connaît pas forcément tout votre travail en France. En tout cas, les non-lecteurs du Guardian, qui sont la majorité, je crois, dans notre pays, ne connaissent pas forcément tout votre l'étendue de votre travail. Posy Simmons, on connaît vos livres et on voit que vous avez aimé vous mettre en scène souvent.
Oh oui, absolument. C'est ce livre, pour moi, c'est extraordinaire de voir tout l'œuvre, parce que j'ai jamais vu ensemble comme ça, même les dessins de l'enfance.
Et qu'est-ce que ça a créé chez vous alors, travailler, voir ce livre, voir une exposition aussi à la ferme du Buisson? Qu'est-ce que ça provoque? Un sentiment de nostalgie, l'envie de dessiner encore plus?
C'est de nostalgie, absolument. Mais j'étais allée à la ferme de Buisson l'autre jour et j'étais tout émue parce que c'est extraordinaire ce qu'on a fait là, dans l'espace pour l'exposition, des choses tout à fait originaux. C'est très très bien. Je suis très honorée d'avoir cette exposition, surtout en France, surtout oui.
Pourquoi
ici.
Surtout en France? On l'entend, vous parlez français, c'est un pays que vous aimez, vous avez étudié à la Sorbonne, vous avez découvert la littérature française, d'où ce personnage de Gemma Bovary, et donc c'est pour ça que c'était particulièrement important pour vous d'exister en tant qu'auteur de bande dessinée en France.
Oui, bien sûr, mais c'est aussi pour la bande dessinée en France, c'est absolument... C'est colossal, c'est colossal. Immense.
En France et en Belgique, il faut toujours dire franco-belge.
Et en Belgique aussi, oui, aux États-Unis. En Angleterre, maintenant, ça a bien, pas commencé, mais dans les derniers 20 ans, maintenant, il y a beaucoup de festivals, des bandes dessinées partout.
Vous lisez beaucoup de bandes dessinées?
Oui, j'avais des périodes que j'ai jamais lu. Quand j'étais enfant, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, surtout les bandes dessinées américaines. Je crois que ma Madeleine de Proust, à 8 ans, c'était l'odeur de l'encre des bandes dessinées américaines. Parce qu'il y avait des enfants américains dans le village.
Il y avait une base américaine à côté de chez vous.
Il y a une base américaine et je suis devenue la propriétaire heureuse d'un tas de comics de Superman et de Spider-Man et de Casper the Ghost. Tous les comics des années 50 et malheureusement c'est ma mère qui les a jetés.
J'ai une histoire similaire dans ma famille, c'est atroce, c'est un vrai crève-cœur, Posy Simmons. Des bandes dessinées, on l'a vu, vous l'avez dit, de super-héros, des Marvels, toute cette littérature, mais aussi des bandes dessinées un peu d'horreur, j'ai pu lire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'album d'Emile Ferris, qui a eu le Grand Prix à Angoulême, qui a écrit « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », qui est un album absolument fabuleux, et qui revient aussi sur cette culture du comics d'horreur.
Moi, j'ai pas lu beaucoup de comics d'horreur depuis mon enfance, mais à cette époque, j'ai lu, j'en ai lu beaucoup, pas beaucoup, mais de temps en temps, il y avait quelque chose qui était vraiment effrayant. Je me rappelle que j'étais en train de lire une histoire et j'ai faisé ah! Et ma mère était en passant, elle dit mais qu'est-ce que tu lis là? Elle a pris la comique et c'était quelqu'un, un méchant était en train d'être écrabouillé dans une presse à olives. Et ma mère a dit oh alors, mais c'est horrible ça.
The Red Dagger, c'était l'une de vos bandes dessinées quand vous étiez enfant, celle que vous avez dessinée, Posy Simmons. On arrive au bout de cet entretien et je sais qu'on vous pose presque systématiquement la question, mais je crois qu'en France, on essaye de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la Manche autant que vous essayez de comprendre aussi avec ce Brexit. On a vu hier qu'il y a eu un vote à la Chambre des communes qui demandait à repousser, de très peu, hein, qui demandait de repousser un petit peu le délai. Encore quelques minutes, monsieur le bourreau, j'ai envie de dire. Quel est votre regard là-dessus? C'est un grand absent, vous qui traitez de l'actualité, vous qui parlez de la société anglaise aujourd'hui. Pourtant, ce Brexit, il est complètement absent de votre dernier album.
Oui, je crois, parce que j'ai commencé avant le Brexit. Mais si je vais faire quelque chose sur le Brexit, il faut que la poussière est tombée. On ne sait c'est rien en ce moment. Et c'était comme ça depuis des semaines, des mois. J'espère qu'il y aura une arche au soleil, au ciel à la fin, mais c'est quelque chose pour moi personnellement un peu déprimant.
Un peu déprimant forcément, oui. Pour vous qui êtes tellement francophile et donc cette incompréhension, vous pensez qu'on peut y répondre par l'imagination, l'invention, la littérature ?
Oui, ah oui, je crois que la littérature c'est bien placé pour expliquer, pour comprendre, pour interpréter tout ça. Moi, ça m'intéresse toujours l'effet de Brexit sur la société, parce qu'il y a une fracture entre les gens qui veulent quitter et les gens qui voulaient rester.
Et justement, cette société que vous décrivez, cette cassure entre des riches qui sont de plus en plus riches à Londres et ces quartiers que vous dessinez aussi dans ce dernier album, beaucoup plus pauvres, où l'immigration est très importante et reléguée, on pourrait dire, Posy Simmons, c'est l'origine du Brexit, en quelque sorte. En tout cas, c'est là-dessus que s'est fait une campagne où beaucoup de mensonges se sont dit, ça on le voit aujourd'hui, où ceux qui ont porté cette idée du Brexit ne sont plus là aujourd'hui pour en assumer les conséquences. Là, je parle évidemment des dirigeants politiques. Donc, il y a finalement dans votre travail peut-être quelques ingrédients qui permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Je crois que c'est une histoire sombre pour un temps qui est un peu sombre.
Merci beaucoup, Posy Simmons. Je rappelle Cassandra Dark et So British, c'est donc chez Graphique de Noël. L'adaptation radiophonique de Gemma Bovary, c'était sur le site de France Culture. C'est encore, on peut encore l'écouter, hein. C'est à la page des feuilletons de France Culture dans une réalisation de Jean-Mathieu Zand, d'adaptation de Lily Stein. La masterclass, je crois que vous donnez une masterclass samedi dans le cadre du festival Pulp à la ferme du Buisson, pardon. C'est à Marne-la-Vallée. Merci beaucoup d'être passé par le studio de France Culture.
Merci.